Au Capi Service, du lundi au vendredi, de 9h à 11h, heure de Kinshasa, avec Tassi Mampoukou.
Merci de votre fidélité au magazine de la vie au quotidien au Capi Service. 71% de la population congolaise vit en dessous du seuil de la pauvreté, d'après les estimations du programme des Nations Unies pour le développement, PNUD en sigle. La pauvreté touche la majorité de la population congolaise, surtout celle habitant les milieux ruraux. Avec ses 80 millions de terres arables, l'agriculture est le secteur qui peut contribuer énormément à la lutte contre la pauvreté en RDC. Quelle peut être la contribution de l'agriculture dans la lutte contre la pauvreté en RDC? Pour en parler, nous recevons dans ce studio le professeur Jean-Didier Minengou. Nous rappelons qu'il est le vice-doyen chargé de la recherche à la faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa. Une fois de plus, bonjour.
Bonjour Tati, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Professeur, quelle est votre perception sur la situation de la pauvreté de la population congolaise?
Merci Tati d'abord pour l'invitation. Je crois qu'on aborde une thématique qui est très très intéressante. C'est quand on voit la République démocratique du Congo avec toutes ses potentialités, vous avez les ressources minières d'un côté, les diamants, les cobalt, l'or, les diamants et je ne sais quoi d'autre, le coltan. Vous avez les richesses agricoles, nous pouvons faire la culture du palmier à huile, des caféiers, des théiers, du manioc, etc. Vous avez parlé de 80 millions d'hectares de terres arables. Et nous avons un potentiel environnemental important qui pouvait jouer un rôle important sur le développement socio-économique. Mais la vérité, c'est que sur le terrain, comme vous l'avez dit, près de 70% de la population en République démocratique, des gens vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Ça veut dire que les gens qui ont les diamants, qui ont le cuivre, qui ont le cobalt, qui ont l'or, qui ont des forêts, qui ont de l'eau, qui ont des terres, ne sont pas capables... n'ont pas les capacités pour se nourrir convenablement. Ces gens-là ne sont pas capables, aujourd'hui, heureusement avec la gratuité, ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école. Ces gens-là ne peuvent pas se soigner convenablement. Ces gens-là ne peuvent pas se promener avec des moyens de transport dignes. Ces gens-là ne peuvent pas dormir dans des conditions
adéquates. Même pour assurer aussi la sécurité alimentaire, ils n'ont pas...
On ne sait pas manger. Mais pourquoi alors un pays doté de beaucoup de ressources comme la République démocratique du Congo? En face, vous avez une population. Pourquoi ce paradoxe? Je dis, Tati n'a qu'une seule raison. Nous avons développé les antivaleurs à la place des valeurs. Quand je parle des antivaleurs, vous avez des comportements, par exemple, de corruption. Dans une société où règne la corruption, c'est tout à fait normal que l'argent qui devrait être destiné pour la construction des routes, l'argent qui devrait être destiné pour la construction des hôpitaux, l'argent qui devrait être destiné pour têter, cet argent est détourné. La conséquence, c'est quoi? Les gens se retrouvent pauvres. Vous avez les antivaleurs de détournement des deniers publics, de fraude fiscale, de contrebande, l'impunité.
Professeur, nous voyons dans tout le programme lancé que dans le cadre de la lutte contre la pauvreté, on met en relief au fait l'apport du secteur agricole dans la lutte contre ces phénomènes, je dirais, sociaux ici chez nous en RDC. Est-ce que c'est vrai que le secteur agricole peut réellement contribuer à la lutte contre la pauvreté chez nous?
Oui, en fait, je suis d'accord avec vous, Tati, mais avant d'aborder l'apport du secteur agricole, en ce qui concerne la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo, j'ai été obligé de faire le rappel de ce qui a joué un rôle négatif à ce que le pays, qui a beaucoup de ressources, mais se retrouve avec une population qui mendie devant les gens. Regarde ceux qui ont un peu de moyens, comment ils sont victimes des demandes des ressources des gens que nous, l'élite, le pouvoir public, nous avons appauvris. C'est-à-dire, c'est pourquoi je suis en train de dire que les antivaleurs ont joué un rôle négatif sur le programme République démocratique.
Cela remonte à quelle période exactement? Parce que par le passé, on n'importait presque pas les denrées agroalimentaires de base, maïs, arachides, haricots et autres.
Oui, mais quand est-ce que nous avons commencé à importer les denrées alimentaires? C'est lorsque nous avons développé les antivaleurs, quand nous avons commencé à détourner l'argent de l'État, lorsque nous avons commencé à favoriser la corruption, lorsque nous avons favorisé la contrebande, lorsque nous avons favorisé l'impunité, les trafics d'influence de tous bords, c'est-à-dire l'argent destiné pour la construction des routes, l'argent destiné pour la réhabilitation des voies ferrées, les gens détournent. La conséquence, c'est quoi? C'est que les gens qui produisent au milieu rural ne peuvent plus envoyer leurs produits vers les centres de consommation. Donc, les antivaleurs ont joué un rôle négatif au développement socio-économique. C'est très important ce que vous venez. Dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et les inégalités, on parle de ces antivaleurs comme facteurs qui ont bloqué le développement socio-économique et qui ont contribué à l'aggravation de la pauvreté en République démocratique du Congo. Je voudrais revenir sur la question fondamentale que vous venez de poser. Est-ce que le secteur agricole peut-il contribuer à la lutte contre la pauvreté et les inégalités en RDC? C'est clair. Quand vous lisez le programme accéléré, comme je vous ai dit, du président de la République qui a été présenté le 16 octobre dernier
dans la vallée de Kinshasa,
oui, vous étiez là, Tati. Il y a trois composantes importantes de ce programme. La première composante, c'est de favoriser l'accès de la population
aux services sociaux de base.
Très bien. L'eau, l'électricité, la
santé, route, scolarité des enfants.
La deuxième composante importante de ce programme présenté par le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, c'était l'amélioration des revenus des populations en milieu rural et urbain, mais cette fois-ci, par la promotion des filières agricoles. Donc, l'agriculture, c'est le secteur, selon le programme qui a été présenté par le président de la République, qui peut permettre de lutter de façon intelligente et efficiente contre la pauvreté en République démocratique. Et la troisième composante, c'était l'autonomie des populations, c'est-à-dire permettre à ces dernières de s'approprier des actions de développement qui ont été menées pour les consolider et les pérenniser.
Professeur, est-ce que la population même n'est pas aussi responsable de cette situation? Parce que tous les gens veulent vivre dans les grandes villes, l'exode rural, les gens ne veulent plus rester dans l'arrière-pays et tout le monde veut venir vivre en ville. Et puis la conséquence, c'est la chute de la production agricole.
Très bien. Et vous dites que la population veut vivre. Pourquoi quelqu'un, est-ce que quelqu'un peut normalement quitter son millier de vies naturelles lorsque les conditions sont pour aller vivre ailleurs? Non. Les gens ont cette aptitude de quitter son milieu d'origine lorsque les conditions de vie ne sont plus acceptables. Aujourd'hui, lorsque vous arrivez dans le milieu rural en République démocratique du Congo, les routes sont inexistantes. C'est-à-dire, même si vous avez la force physique nécessaire, si vous avez la volonté de réaliser la production agricole, mais vous êtes certain que ce que vous avez à produire n'arrivera jamais dans les centres de consommation. Donc vous êtes en train de perdre du temps et du coup, au lieu d'améliorer les conditions de vie, vous devenez de plus en plus pauvre. Et dans ces conditions, les gens sont obligés de quitter les milieux les plus enclavés, vers les milieux qui sont désenclavés, les milieux où les gens peuvent exercer une certaine activité pour pouvoir construire l'avenir. Donc, si aujourd'hui nous avons connu un phénomène important d'exode rural, c'est parce que le pouvoir public de l'époque, nous, l'élite de la République démocratique du Congo, nous n'avons pas joué un rôle constructif pour que les villages soient un lieu de vie agréable, comme dans les centres urbains de la RDC. Aujourd'hui, quelqu'un va accepter de quitter, vous êtes vers Bongandanga là-bas. Et s'il dit qu'il va venir à Kinshasa, vous allez dire qu'il a tort. Il n'a pas tort, parce qu'il se trouve dans des conditions extrêmes. C'est partout dans beaucoup de coins de la République démocratique du Congo. Donc, il était normal que les développements ou les actions de développement ne soient pas centrées à certains coins de la République démocratique, comme les centres urbains, et les actions de développement devraient être vraiment réalisées dans presque tous les coins et même les recoins de la République démocratique du Congo. Comme vous venez de le dire, Tati, le secteur agricole peut jouer un rôle important dans la lutte contre la pauvreté.
Aujourd'hui, le secteur agricole est par terre. Dans les grands Katanga de Mambré, on importe le maïs, dans les Kasaï, on importe la même céréale, alors que ça fait partie des aliments de base de la population dans cette partie du pays. Est-ce que ça c'est moi, je le trouve un peu ridicule, professeur.
Oui, c'est quand même ridicule et c'est honteux pour la République démocratique du Congo et surtout pour nous, l'élite, ceux qui se font passer élite. C'est vraiment dommage de voir qu'un pays qui est doté de beaucoup de ressources,
80 millions d'hectares de terres arables.
Nous avons des climats très favorables, nous avons le sol, mais finalement, et nous ne sommes pas capables d'assurer la sécurité.
Au point d'importer le maïs.
Le maïs que nous pouvons produire. Et vous avez des pays comme la Zambie, je crois que l'ancienne province du Katanga, c'est beaucoup plus vaste peut-être que la Zambie. Donc voilà, un petit pays importe et finalement de la nourriture à un grand espace où les gens ne savent ni cultiver le maïs, moins encore le manioc, etc. En fait, le vrai problème, c'est quoi aujourd'hui, Tati? C'est que depuis des années, comme je l'ai dit au début, la question du développement communautaire, la question du développement pour tous n'était pas une priorité pour les dirigeants de la République démocratique du Congo. C'était l'affaire d'un groupe d'individus. C'est-à-dire, comme je l'ai dit, à travers des antivaleurs comme la corruption, le détournement des fonds, les trafics d'influence, l'impunité, beaucoup de ressources de la République démocratique du Congo ont échappé, n'ont pas été
orientées vers le bien-être pour tous, mais ces ressources ont été orientées pour des intérêts individuels. C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens aujourd'hui avec des millions, et des fois avec des milliards. Mais
vous le dites, et finalement, moi je me rappelle.
Lui, il se retrouve dans la pauvreté, dans la misère. La
oui, mais il y a des efforts qui ont été conjugués dans le cadre de la relance du secteur agricole. On a eu à distribuer dans le cadre de la campagne agricole, je me rappelle, il y a 5 ou 10 ans, on a distribué des tracteurs aux producteurs agricoles. Il y a également les projets qui ont été développés ici au plateau de Bateke, Bukangalonzo. C'était dans le cadre de la relance du secteur agricole. Et puis, mais malheureusement, ces programmes pilotes ont accouché d'une souris.
Je voudrais être très clair avec vous, Tati. On ne peut pas et considérer le secteur agricole comme un facteur important de lutte contre la pauvreté en développant des projets comme Bukangalonzo ou en distribuant des tracteurs. J'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que c'était des projets mal conçus, étaient des projets qui permettraient aux individus de pouvoir s'accaparer des ressources de la République démocratique du Congo, parce qu'aujourd'hui, il y a zéro résultat. Avec Bukangalonzo, l'État a investi près de 100 millions de dollars. Quel est le résultat aujourd'hui? Combien d'emplois ont été créés? Vous allez lutter contre la pauvreté comment? Lorsque c'est quitté, combien de jeunes congolais ont été engagés dans ce genre de projet? Donc ce sont des choses qu'il ne faut même pas en parler, ce sont des choses qui méritent même des poursuites judiciaires si le temps était beaucoup plus clair. Donc, je voudrais dire ceci, Tati. L'agriculture concerne près de 75% de la population de la République démocratique du Congo. Comme il est bien écrit dans le cadre du programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté, les efforts visant à lutter contre la pauvreté doivent être orientés vers le secteur agricole. Vous venez de le dire, la plupart de ce que nous consommons ici à Kinshasa, la nourriture Kinshasa, le Bumbashi, sont des produits qui viennent de l'extérieur. Et ça nous coûte près de 1,5 milliard de dollars par an. Ce qui veut dire que si cet argent était allé vers nos producteurs, ces gens-là ne seront pas pauvres comme ils le sont aujourd'hui. Parce que l'argent que nous utilisons pour aller acheter la farine du maïs, pour aller acheter la viande de porc, la viande de paix, les épices partout ailleurs, en Amérique, en Asie, en Europe, et partout, c'est cet argent en réalité devrait se retrouver entre produits. Les autres efforts qu'il fallait fournir aussi dans le cadre de ce programme, et ça c'est très clair, c'est bien écrit, c'est d'empêcher à ce que les pays importent encore ce que nous pouvons produire.
Professeur, il y a aussi un paradoxe. Les produits cultivés localement coûtent un peu plus cher que les maïs qui viennent de l'extérieur. C'est très étonnant, professeur.
Et en fait, pourquoi...
Même des palmes, on peut prendre...
Très bien. Voilà. Vous abordez une question très importante. J'ai discuté avec le producteur du Dépal, qui sont ici en République démocratique du Congo. Et il est vrai que les industriels qui utilisent cette matière première estiment que l'huile qui vient de l'extérieur coûte moins cher que l'huile
produite localement
en République démocratique du Congo. C'est archi faux. Vous pouvez imaginer que l'huile qui vient de la Malaisie, une tonne d'huile qui vient de la Malaisie, d'abord en termes de coût de production, en termes de coût de transport, de la Malaisie jusqu'à peut-être Matadi, Kinshasa, et que cette tonne coûte moins cher que la tonne d'huile qui est produite à l'Équateur, qui est produite à Bandundu, je ne sais pas, au Bakongo, c'est pratiquement faux. Donc, il y a d'autres paramètres. Vous avez, par exemple, des subventions que ces gens-là, et il y a des exonérations qu'on a... Alors que, logiquement, pour relancer la production agricole, ces genres de produits où nous sommes capables aujourd'hui, nous-mêmes, de les mettre sur le marché, ce qui devrait venir de l'extérieur ne devrait pas être exonéré. Ce qui venait devrait être taxé pour faciliter la production à l'intérieur. Même si la tonne d'huile, je donne un exemple très banal, même si la tonne d'huile qui vient de Manaka coûte plus cher que la tonne d'huile qui vient de Malaisie, mais avec cette tonne d'huile qui vient de Manaka, il y a plusieurs familles ou il y a plusieurs ménages qui sont impliqués, qui trouvent de l'intérêt dans ce que vous pouvez acheter comme huile à ce niveau-là. Donc l'impact sera beaucoup plus important en produisant qu'en important. Donc, les efforts pour le gouvernement de la République démocratique du Congo, et ça c'est très clair, c'est bien indiqué dans le cadre du programme présidentiel, c'est que les filières agricoles qui vont être développées devraient permettre à ce que les pays quittent ces taxes d'importation alimentaire qui coûtent vraiment des milliards de dollars à la République démocratique. Et dans ces conditions, Tati, nous pouvons lutter contre la pauvreté en République démocratique. Et c'est possible. C'est vrai que les gens sont en train de dire non, mais voilà, il y a trop d'ateliers, il y a trop de conférences, de forums. Oui, vous pouvez avoir raison. Mais on ne peut pas développer un pays sans réflexion. La réflexion doit précéder l'action. C'est ainsi que dans le cadre de ce qu'il est en train de faire, ce qui est très intéressant, le programme a été mis en place pour nous, et les agronomes, les gens qui sont spécialisés sur le secteur de l'agriculture, nous sommes en train d'étudier, nous sommes en train de mettre en place des programmes pour permettre à la population de quitter ce cercle vicié de la misère et de la pauvreté.
Monsieur le professeur, je vais revenir à vous, le temps pour nous de donner la parole à la première vague des auditeurs qui interviennent à travers les pays. Si vous êtes intéressé par cette thématique liée à l'apport de l'agriculture dans la lutte contre la pauvreté en RDC, appelez-nous pour intervenir en direct au numéro 099-890-63-94 et au numéro 081-890-63-94.
Okapi Service, le magazine de la vie au quotidien est à votre service. Tous les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 10h05 à 11h sur Radio Okapi.
Kachai, vous intervenez depuis la ville de Kanyoka. Bonjour Monsieur Kachai.
Bonjour Monsieur Tati et bonjour à Messieurs les professeurs.
Quelle est la question ou quelles sont les questions que vous avez à poser à notre invité?
Merci beaucoup, Monsieur Tati. Le sujet est très important, surtout que toute la population congolaise meurt de faim au jour le jour. Nous avons des terres arables qui ne sont pas cultivées, des terres qui ne sont pas travaillées. Pourquoi? Parce que nous sommes des faibles et nous n'avons pas des gens qui peuvent donner l'impulsion à l'agriculture, Monsieur Tati, dans notre pays. Monsieur Stati, particulièrement ici au Kassai, nous sommes en train de traverser la période des vaches maigres. Une vie en total dénuement parce que nous nous sommes accrochés au maïs et au manioc. Le prix de ces denrées sur le marché a haussé. Un méca de maïs mesure revient à 3500, ce qui met en difficulté le peuple kanangais, centre kassaïen, à pouvoir subvenir à ses besoins au quotidien. Alors, je voulais tout simplement demander à messieurs les professeurs, ça c'est une intelligence qu'il développe, le crâne scientifique. Qu'est-ce qu'ils peuvent normalement faire pour aider les gouvernements dans ces programmes de la lutte contre la pauvreté, amorcé déjà par le président de la République, pour que ces programmes-là soient effectifs? Parce que c'est depuis que le président a lancé les programmes, mais sur le terrain jusqu'alors, nous n'avons pas senti alors des activités. Parce que quand ils lancent des programmes, par exemple, dans les 100 jours, on avait déjà vu certains enjeux par rapport à l'asphaltage des routes. Les gens ont commencé à travailler. Mais dans le secteur agricole, le programme a été déjà lancé, mais aucune activité à impact visible jusqu'alors n'est observée sur terrain. Ici, chez nous, par exemple, vraiment, nous ne savons pas quoi dire et quoi faire. Parce que tout le monde qui attendait les maïs provenant de Mweka, dans l'autre province là du Kassai, mais ça pose un problème parce que le maïs, quand ça vient, les opérateurs économiques prennent les taux, ils amènent en Bouchimaï où ils vont vendre à 8000 à 7000 francs. Et ça, ce qui cause un problème sérieux sur les marchés centre-kassaïens. C'est pourquoi je voulais demander. Mmh. Dans nos milieux respectifs, oui, il y a des coopératives, des agriculteurs. Ils vont là. Ils ne font pas beaucoup d'hectares. Mais si on donne, par exemple, des tracteurs à ceux-là qui ont la volonté de cultiver les champs, par exemple, des tracteurs...
Mais Kachai, s'il vous plaît, ça a été fait il y a quelques années. On a remis des tracteurs aux producteurs agricoles, mais ça n'a rien donné comme résultat, Monsieur Kachai.
Monsieur Tati, les tracteurs ont été donnés à l'époque du gouverneur Kapuku, homologués par le gouverneur Kande, mais ces tracteurs-là ne se laissent pas voir. Demandez par exemple à ceux-là qui avaient donné des tracteurs, s'il y a un tracteur ici à Kananga qui cultive les champs, il n'y a aucun tracteur.
Monsieur Kachai. Oui, merci beaucoup. Hein. Merci de l'intervention. En fait, on va donner la parole à d'autres auditeurs qui attendent. Allons cette fois-ci en Mbujimayi pour donner la parole à Shadrach. Bonjour.
Oui, bonjour Monsieur Tati. Bonjour au professeur. Bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Quelle est la réalité qui se dégage au niveau de la ville de Mbujimayi?
Vraiment, merci Monsieur Tati. L'agriculture étant un ensemble des activités dont la fonction est de produire un revenu financier à partir de l'exploitation de la terre. Mais néanmoins, M. Tati, vous allez remarquer sur la ville de Mbujimayi, nous exploitons plus la terre pour le diamant, le métier des creuseurs, ainsi de suite. Maintenant, et surtout que nous traversons une calamité avec la hausse de prix de maïs, un méca maintenant qui revient à 8 000, 10 000 francs, Maintenant, tout le monde s'intéresse maintenant à l'agriculture. Maintenant, la question que je voulais poser à l'invité, comment l'agriculture peut-elle contribuer à la lutte contre la pauvreté dans une ville enclavée comme la ville de Mbujima? Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, j'ai demandé au professeur, quels sont les mécanismes qu'il peut proposer? Parce qu'à mon humble avis, j'estime que le programme du chef de l'État, bien sûr, jusque là, il n'y a pas de réalité sur la ville. On ne peut pas nous doter une loi, en fait, pour qu'il y ait un peu de contrainte. Il y a des gens qui déambulent en Mbujima qui ne font rien. À Kalalongata, vous avez, il y a des gens qu'on appelle le Yakoul. Ils sont là du matin au soir, ils se racontent de n'importe quoi. Pourquoi ne pas nous doter une loi contraignant toutes ces personnes-là d'aller au sort? Nous ne pouvons pas peut-être connaître ce genre de situations que nous sommes en train de connaître. Voilà un peu ma contribution, M. Badi. J'ai dit et je vous remercie.
Merci beaucoup, M. Chadrak. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Mbujimayi. Allons cette fois-ci à Kananga pour donner la parole à M. Deo Gracias. Bonjour et bienvenue dans Capi Service.
Bonjour, M. Tati. Bonjour aussi à notre professeur. Bonjour aussi aux milieux des Congolais.
Allez droit au but. Quelles sont les questions que vous avez à poser à notre invité et quelle est la réalité qui se dégage à Kananga?
Je n'ai pas tellement de questions, mais j'ai de réalité, des constats et des contributions, n'est-ce pas, à faire à cette thématique, en tout cas merveilleuse. Nous remarquons que, d'une part, il y a la naïveté de la population. D'autre part aussi, l'acheter aussi de l'État. D'une autre part aussi, n'est-ce pas, il y a aussi la responsabilité aussi des scientifiques qu'on appelle les ingénieurs
agronomes. Oui.
Chaque année, les universités produisent les ingénieurs agronomes. Je peux demander, poser la question à notre professeur.
Qui est aussi ingénieur agronome.
Ingénieur agronome. La plupart de ces gens-là font l'exode rural. Ils quittent de villages vers les agglomérations urbaines. Et aussi longtemps qu'au village, là où il y a leur secteur, n'est-ce pas, d'activité, on ne voit aucun apport, n'est-ce pas, de la part de ces scientifiques. Même si je peux demander, poser une question d'emblée au professeur qui est sur le studio, depuis qu'il est professeur, quels sont, n'est-ce pas, les projets visibles, à caractère agronomique, n'est-ce pas, qu'il a aussi, n'est-ce pas, développé à travers la population. Troisièmement aussi, la population, purement, je lève l'aspect, n'est-ce pas, des Kassaïens en général. Tous les Kassaïens, la plupart des Kassaïens se lancent, n'est-ce pas, dans des commerces et dans des bureaux, c'est fini. Ils sont très lâches, n'est-ce pas, à faire de l'agriculture. La plupart, si vous les dites que non, va faire l'agriculture, ils doivent dire que non, ça c'est quel travail, je peux aller faire mes activités, mes business par-ci, par-là. Ils comptent beaucoup plus se déplacer aussi longtemps de rester dans son agglomération pour produire, n'est-ce pas, de maïs. La RDC a une grande superficie que la Tanzanie, les Zambies, là, vous voyez seulement la superficie des Zambies. Mais nous devons maintenant, les grands Congo ici doivent attendre les maïs qui proviennent, n'est-ce pas, des Zambies et des Tanzanies. Ça, c'est une honte, purement une honte pour l'État congolais. Et on se demande, chaque année, dans le budget de l'État, on a toujours dit que non, l'agriculture n'était pas financée, n'avait que 2%, c'est 1%. Faisons les calculs sur les 4 milliards. Pas de procédure mathématique. Si on prend les 2%, cela veut dire que le ministère, n'est-ce pas, d'agriculture bénéficie au moins 80 millions de dollars. Bon, tout cet argent-là, demandez maintenant l'avis que menaient les ministres et l'avis que mène maintenant la population congolaise. C'est le détournement pur et simple. Ils vont dire que non, ils n'étaient pas financés. Comment ils se sont enrichis? Le ministre de l'Agriculture demandait tous ces ex-là. Voyez seulement leur vie. Est-ce qu'ils n'étaient pas enrichis dans ce ministère-là? Tout cela se résume en disant que non, tout le monde a une part de responsabilité. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas l'exode rural aussi longtemps que là où celui qui produit le maïs se retrouve enclavé? Les chemins de fer, donc il y a des déraillements à tout moment. Les trains ne sont pas fréquemment, n'est-ce pas, tous les mois. Et les routes occupées, n'est-ce pas, de servir, n'est-ce pas,
sont impraticables.
Tout ça sont impraticables, les érosions, tout ça. Là où la distance de 60 km. Le vailleur, le convoyeur qui mène les petites marchandises à vélo doivent faire une semaine en route. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas de crise? Donc, les tracteurs. Les tracteurs ont été donnés ici. C'est le détournement même de carburant. On détourne même les carburants affectés. Non, c'est purement une naïveté de la population, une naïveté aussi, n'est-ce pas, des scientifiques et aussi une lâcheté, n'est-ce pas, de l'État pour ne pas imposer sa puissance et sanctionner tous ces auteurs-là qui ont détourné les biens et les dépeignés de l'État. Lorsqu'on va chercher à les sanctionner, non, ce sont les règlements des comptes, tout ça. Non, ce n'est pas les règlements des comptes.
Merci beaucoup, monsieur de Gracia. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Kananga. Professeur, vous, ingénieur agronome, vous avez failli à votre responsabilité.
Absolument.
D'après de Gracia.
Oui, bien sûr.
Et je voulais savoir concrètement, vous, en tant que ingénieur agronome, quels sont les projets que vous veiller à exécuter dans ces créneaux-là en faveur de la population congolaise.
Je suis très content de participer à l'émission à la radio Okapi à cause de la liberté et de la démocratie qui caractérise ces médias. Je suis très content. Et je salue d'abord tous les intervenants pour le courage et l'essence de ce qu'ils veulent par rapport à la République démocratique du Congo dans les secteurs agricoles, la lutte contre la pauvreté. Ça, c'est extrêmement important. Je ne commence pas par Deogras, je voudrais commencer par le premier intervenant, Kacha, qui a appelé également
les Kanyoka dans les Kassai.
Dans les Kassai. Et ce que j'ai retenu, ce qui est très important, c'est que qu'est-ce faut-il faire pour que le programme
soit matérialisé
sur terme. Le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté soit matérialisé. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, lorsque le président de la République lance le programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités en République démocratique du Congo, cela ne veut pas dire que tout ce qui va se faire après, c'est le président qui va le faire. Il appartient aux organisations de la société civile. Il appartient aux partenaires techniques et financiers. Il appartient aux universités, aux instituts de recherche et aux centres de recherche.
Professeur Kanyo, Kacha, il a dit le président, dans le cadre du programme des 100 jours, il a lancé les travaux pour des routes. Ils ont vu des routes en train d'être construites. Mais pour le cas du secteur agricole, ça donne l'impression d'être un slogan.
Non, ça ne doit pas être un slogan sur lequel nous sommes là et vous êtes là. Ça ne sera jamais un slogan et nous nous battrons pour que le programme qui a été présenté il n'y a pas très longtemps, il n'y a pas encore un mois, c'était le 16
octobre dernier.
Dernier, donc ce n'est pas encore un mois pour parler de slogan, ce n'est pas encore deux mois, ce n'est pas encore trois mois. Et je sais que c'est pourquoi je suis en train de dire que ce n'est plus l'affaire du président de la République aujourd'hui, c'est l'affaire de tout ce qu'il y a comme organisation de la société civile, partenaires techniques, les scientifiques pour mener de la recherche dans le secteur qui est le nôtre. L'agriculture et la lutte contre la pauvreté, c'est comme ça que les choses doivent marcher dans une société responsable. Alors, je dois rassurer...
Récemment aussi, on a lancé un laboratoire, on a inauguré un laboratoire dans le site Kivu pour la production des semences et des boutures saines et des manioc.
Tout ça va dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Lorsque les agriculteurs ont des semences pour réaliser la production agricole, leur revenu va s'améliorer et la pauvreté va disparaître petit à petit de leur vie. Je voudrais dire à notre ami Kachai de Kananga que le programme qui a été lancé par le président de la République le 16 octobre dernier ne sera jamais un slogan. Il y a des projets qui sont en train de se faire. Peut-être d'ici la fin de l'année, vous allez assister à des démarrages de projets concrets sur le terrain. Par exemple, dans la ville de Kinshasa, à ce qui concerne un laboratoire pour produire des biopesticides et des engrais organiques, parce que l'activité maraîchère constitue le pilier, le socle de la production agricole dans la ville de Kinshasa, où vous avez plus de 150 000 tonnes de légumes qui sont produits ici par an. C'est énorme. Et la masse d'argent qui circule dans ce secteur, c'est pas moins de 100 millions de dollars. Donc, un projet qui entre dans le cadre de ce programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités en République démocratique, bien sûr, vient améliorer les conditions de vie des producteurs, mais également lutter contre la pauvreté dans leur milieu. Donc, il y a des efforts.
Donc, ces projets, il est déjà conçu.
Projet est déjà conçu et je vous rassure que d'ici peut-être la fin de l'année, les travaux de la construction d'un laboratoire en faveur de maraîchers de la ville de Kinshasa pour produire des engrais organiques, pour produire des biopesticides, les travaux vont être lancés. Donc, nous ne pouvons pas accepter qu'un programme qui a été présenté reste historique. Cette étape est révolue. Aujourd'hui, nous sommes dans ce qu'on appelle la gestion axée sur les résultats. Le programme a été lancé et les gens sont en train de travailler de gauche à droite pour que des projets réels soient réalisés. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent pour que rien ne se réalise, mais nous aussi, de notre côté, nous devons mettre des stratégies pour que quelque chose aussi se réalise. Et nous devons nous battre pour que les choses se réalisent. Tout ce qu'on fait, c'est pour l'intérêt de la population et nous sommes obligés de le faire.
Nous retournons au standard, professeur. Hein, vous allez répondre par la suite à la question de... En fait, à la suggestion, c'est un complément d'information que vous allez enrichir. De Gracias qui a appelé des Mujimaï. Mm-hmm. Retournons à Kinshasa pour donner la parole à monsieur Trésor. Trésor, bonjour et bienvenue dans Okapi Service.
j'ai salué le professeur. Et en fait, je veux préciser que je suis à Kinshasa, mais je viens de Mbujima et c'est ma ville, ma province Kassai-Orientale. Je suis un peu inquiet par rapport à ce qui arrive. Mais je vais quand même parler au professeur, parce qu'il y a fait longtemps qu'ils sont en train de suivre au café service. Ils parlent de l'agriculture, un séminaire qu'ils sont en train d'organiser et tant d'autres choses. Mais je n'ai jamais entendu ni des solutions pratiques. Quelles sont les mesures pratiques? Un programme précis, qu'est-ce qu'il veut dire aujourd'hui à la population, d'une manière pratique, pour pouvoir réaliser le secteur agricole en République démocratique du Congo? C'est ça ce que je veux un peu qu'ils me disent d'une manière pratique et claire, qu'est-ce qu'il faut comme programme pour réaliser ce programme.
Merci beaucoup, Trésor. C'était aussi la préoccupation de M. Deogracias Timbujemaï. Le professeur va répondre. Donnons cette fois-ci la parole à M. Augustin, qui intervient depuis la ville de Beni, au Nord Kivu. Augustin, bonjour.
Ah, bonjour, Tati.
Bienvenue dans Okapi Service. Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Et juste avant de poser ma question à notre invité, vraiment, je voulais un peu voir quelque chose. Quand vous voyez l'état de notre pays, le sol surtout, qui est tellement très riche. Et juste quand vous arrivez à notre frontière, parce que j'ai marché du nord jusqu'au sud au Katanga dans notre pays, partout il y a la frontière, c'est là que le sol est devenu très sec. Alors, notre pays, quand vous voyez le sol, tellement riche, mais on produit très peu. Alors, par rapport à ça, je me dis, ou bien ce sont les scientifiques qui appauvrissent ce pays, ce sont les politiques, ou bien c'est la population elle-même qui est pauvre et qui n'a pas ce courage-là, ou bien la force de faire les choses et de développer son intelligence. Et je me dis, bon, où se retrouve le problème? Alors, ma question revient dans ce sens. Je voulais savoir ici, le programme dont parle le professeur, quelle est la stratégie réelle pour ce problème, pour la bonne mise en œuvre de ce programme? Quelle est la vraie stratégie que les professeurs ont adoptée au cours de leur forum et de leur étude chaque fois qu'ils se réunissent pour que ce problème ne soit pas un programme, qui va tomber sur le fiasco? Et deuxième élément, je voulais savoir, quand je vois notre pays, vous allez trouver, il y a beaucoup d'agronomes, mais ailleurs vous allez trouver que ces agronomes sont dans des filières, il y a des filières qui sont développées dans le pays. Je me demande au professeur, est-ce qu'il tient compte également du cadre des filières, de développer les filières dans ce programme-là? Parce que quelqu'un qui fait le champ de cacao, au même moment il a le champ de palmier, au même moment il a le champ de bananeraie, au même moment il fait le champ de maïs, il n'arrive à reproduire, il s'attend par-ci par-là pour ne rien faire maintenant. Alors, mais la troisième préoccupation est que pour ce programme, est-ce que ce programme tient compte du système que nous pouvons faire intégrer de tous les ministères, par exemple? Par exemple, ailleurs, pour que ce programme réussisse, il faut la sécurité, comme à l'Est et ici. Ailleurs, il faut les routes pour que ce programme réussisse. Ailleurs, c'est-à-dire, est-ce que le programme a intégré
l'aspect multisectoriel? Merci beaucoup, Augustin. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Beni. Allez-y rapidement, chutez, s'il vous plaît, on n'a plus assez de temps.
C'est dans ce sens-là que je voulais dire que les professeurs doivent très bien réfléchir par rapport à ces éléments-là. Et quatrième élément par rapport à l'élément auquel je me disais que, par rapport à notre pays, ailleurs, vous allez trouver que dans les pays, on a développé le système des coopératives. Les agriculteurs sont réunis dans des coopératives. Et pour notre cas, comment est-ce qu'ils sont en train de réfléchir par rapport à ça? Comme nous avons le cas d'exemple de plusieurs gens qui sont dans le cas du riz, dans la production du riz, la production de cacao, et ainsi de suite.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Augustin. S'il vous plaît, oui, merci beaucoup. On n'a plus assez de temps. J'en donne la parole au professeur. La question de Deogracias se recoupe avec celle de Trésor qui est à Kinshasa. Qu'est-ce qu'on doit faire des pratiques, des concrets pour réussir le volet agriculture dans la lutte contre la pauvreté?
Très bien. Et ce qu'il faut faire de façon pratique pour que l'agriculture contribue à la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo, Je crois qu'ils ont déjà évoqué les éléments importants. Il y a notre ami Trésor qui vient d'ajouter.
Augustin plutôt des Bénis qui a parlé des filières.
Qui parle de la sécurité et des routes. Donc pour que l'agriculture contribue à la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo, il y a la réhabilitation des routes des déserts agricoles. Mais bien sûr, lorsque les routes sont réhabilitées, il faut que les gens se trouvent dans de bonnes conditions de sécurité. C'est ainsi que vous avez vu pour le cas des Bénis, et il y a des dispositions pratiques qui ont été prises pour que la région soit sécurisée. Des troupes ont été envoyées sur le terrain. L'objectif, c'est que la région soit sécurisée. Tant que cette région ne sera pas sécurisée, il y aura très peu de chances que la République démocratique du Congo entre sur la voie du progrès et du développement véritable. Et ça fait partie des priorités du président de la République qui a dit que la sécurité doit, avec tous les moyens possibles, revenir dans la partie est de la République démocratique du Congo. Et nous apportons tout notre soutien au chef de l'État, qui est le commandant suprême des forces armées. Nous apportons notre soutien aux forces armées qui sont sur le terrain pour que la sécurité revienne dans la partie est de la République démocratique. Nous saluons la volonté des organisations de la société civile de la Lucha qui appuient les gens pour que la sécurité... Parce que sans sécurité, et tant comme on vient de le dire, il n'y a pas de développement.
Augustin a parlé de filières, au fait. Est-ce que c'est aussi important de développer des filières dans le domaine agricole?
Je voudrais dire à notre ami Augustin, nous allons publier d'ici le 15 décembre le dernier numéro de la revue africaine d'environnement et d'agriculture. L'éditorial de ce numéro-là est consacré au programme de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales en République démocratique du Congo. Là, on explique très bien ce que veut faire le programme, ce que le président de la République a besoin. Donc, dans le programme, on parle de la promotion des filières agricoles. Donc, messieurs, vous avez raison de le dire, et c'est clair que tout a été déjà pris en compte pour que les choses se passent normalement. Il y a notre ami Deograsse qui a dit « Les agronomes ne font rien, et finalement... » on se rend compte qu'il n'y a rien qui se fait.
Excusez-moi, professeur, nous allons retourner au standard. Hein. Vous donner la parole aux derniers auditeurs qui appellent à travers les pays. Nous allons cette fois-ci partir à Lubumbashi pour donner la parole à M. Peggy. Bonjour, M. Peggy, et bienvenue dans Capi Service.
Merci beaucoup, M. Tati. C'est Peggy, bien sûr, à Lubumbashi. Je voulais aussi poser une question directement à l'invité.
Allez-y, rapidement.
Voilà. Et l'invité peut aussi me dire quels sont les mécanismes que le gouvernement qui a mis en place ce programme va maintenant toucher ce que le gouvernement passé n'avait pas mis aussi l'accent sur ce point-là. Alors pourquoi j'ai dit ça? Parce que quand nous voyons la gratuité de l'enseignement ici, les gens ont commencé à dire que non, c'est le programme que le président qui était là avant avait mis en place, mais il n'avait pas réussi. Maintenant, je demande quels sont les points CA que le gouvernement va toucher pour que ce programme ici puisse un peu réussir. C'est un peu ça ma petite question.
Merci beaucoup, M. Peggy. Nous rappelons que vous intervenez depuis la ville de Lubumbashi. Allons cette fois-ci à Gbadolite pour donner la parole à l'ingénieur Motambo. Bonjour.
Oui, bonjour, M. le journaliste. Bonjour au professeur. Bonjour aux auditeurs handicapés.
Allez-y, allez droit au but. Quelle est la question que vous avez à poser à notre invité?
Bien, je voudrais, parce que généralement j'interviens de Bumba, maintenant je suis à Gbadolite. Je voudrais aussi, par rapport à ce que j'ai constaté ici, lorsqu'il y a la présence du programme alimentaire mondial, du HCR, par rapport à l'afflux de réfugiés qui sont aux alentours d'ici, je pense qu'il y a des fonds pour essayer de proposer, contribuer quand même à ce que le professeur est en train de dire, et aussi au financement de cette de filière. Les gens là qui sont dans le PAM, dans le HCR, cet argent, ces fonds-là pouvaient être encadrés par le ministère de l'Agriculture pour que les agriculteurs étant organisés en coopérative, que ces fonds-là puissent passer par les coopératives d'agriculteurs pour que les agriculteurs produisent et que le HCR s'approvisionne auprès des agriculteurs locaux. Ça aussi, ça échappe beaucoup au gouvernement, qui est en train parfois de chercher des argent, des fonds, ainsi de suite. Et il y a aussi des fonds par rapport à ceux qui nous ont dirigés avant, parce que maintenant on parle de l'agriculture comme si c'est un phénomène nouveau. Avant, ça n'existait pas. Ces gens-là nous ont affamés, ils ont de l'argent.
même l'argent qu'ils ont mis dans les paradis fiscaux, ils nous ont mis dans l'agriculture. Moi, je suis ingénieur agronome. Je vois très mal qu'il n'y a pas de routes qu'on dise que les gens vont produire. S'il n'y a pas des intrants agricoles qu'on dit que les gens vont produire. À Bouma, là où on produit beaucoup, il n'y a même pas de routes de cet agricole. Il n'y a pas des intrants. Nous avons demandé qu'il y ait même INERA quelque part à Bouma pour chercher à nous produire des semences améliorées. Ça, je ne sais pas s'ils ont tenu compte. Vous voyez, donc il faut quand même que j'ai essayé de donner seulement quelques pistes pour que là on peut trouver là-bas pour investir dans l'agriculture. Ces gens qui nous ont affamés, ils ont des milliards. Ils ont dix fois milliards plus que le gouvernement, le subsidiaire de l'État. Qu'on nous prenne cet argent qu'on nous amène à l'agriculture, je ne sais pas pourquoi on prenne les pistes, qu'on prenne cet argent-là et nous allons travailler. Nous amènerons déjà les techniques culturales auprès de la population, nous travaillons aux côtés de la population, nous travaillons. Mais la population produit. Parce que si vous produisez plus, il y a de la production qui pourrissent. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui pourrissent dans les villages ici parce qu'il n'y a pas de route. Il faut commencer aussi par les routes, commencer par donner les bonnes semences pour que les gens produisent.
Merci beaucoup, Guillermo Tambo. Je rappelle que vous intervenez depuis la ville de Gbadolite. Pour vous, en fait, vous avez donné un coup de gueule. On doit mettre beaucoup de moyens pour réussir la relance du secteur agricole. Le professeur, en quelques mots, hein, qu'est-ce que vous dites aux derniers intervenants?
Oui,
on a plus assez de temps rapidement.
À l'ingénieur Mutombo qui a appelé à partir de Gbadolite, que le programme de lutte contre la pauvreté en République ne sera pas le seul programme pour régler la question de la pauvreté. C'est un programme qui doit s'imbriquer à d'autres programmes. À l'instant où je vous parle, à l'immeuble 2 du gouvernement, à Tembiana-Tema, en face du Palais du Peuple, il y a un travail qui est en train de se faire pour faire ce qu'on appelle la validation technique du programme eau, hygiène et assainissement en République démocratique du Congo. Il y a un nombre important de programmes qui est en train d'être élaboré, en train d'être mis en place, pour que tous ces programmes se touchent de part et d'autre pour apporter des solutions aux problèmes de la société. Donc nous ne disons pas qu'à travers seulement le programme de lutte contre la pauvreté, tous les problèmes. Voilà. Dans le cadre de la première composante, on parle de l'amélioration de l'accès à l'eau et électricité, autres. Ça, il faut d'autres structures par rapport à l'accessibilité à l'électricité. Donc il y a tout un tas d'initiatives qui devraient être réalisées pour qu'on arrive à porter des solutions aux problèmes de la société. Je voudrais répondre à notre ami Peggy qui a appelé à partir de Lubumbashi, qui dit il y avait déjà des initiatives, que faire pour qu'il n'y ait pas de confusion. Non, je voudrais préciser que la question de la gratuité n'était pas un programme d'un président de la République. La gratuité, elle est constitutionnelle.
Professeur, nous sommes presque à la fin de cette tranche d'interactivité. Ouais. Dites-nous, professeur, de manière pratique, quel peut être l'apport de l'agriculture dans la lutte contre la pauvreté et par où faut-il commencer exactement?
Très bien. Pour pouvoir lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo à travers l'agriculture, il y a plusieurs actions qui doivent être menées. J'ai déjà évoqué d'autres actions. La question de la lutte contre l'impunité, les détournements des fonds, la corruption, ça c'est autre chose. Sur le plan pratique, qu'est-ce qui va être fait? Premièrement, nous avons près de 70% des personnes qui font l'agriculture, mais ils ne savent pas évacuer leurs produits. Il faut la réhabilitation, pas seulement des routes de dessert agricole, mais d'autres voies qui permettent aux agriculteurs d'envoyer leurs produits vers les centres de convention. Vous avez par exemple le balisage des rivières, le balisage d'eau, et toutes ces questions, je vous dis que c'est très intéressant. On est en train de débattre ça maintenant à l'immeuble Tembiana-Tembe du gouvernement en face du Palais Peuple. Ça, c'est d'abord le premier point, la réhabilitation des routes
de dessert agricole.
Le deuxième point qui est important, c'est l'appui en intrants nécessaires de production que l'État devrait apporter aux producteurs agricoles. Ils l'ont dit, tant que les gens n'ont pas de bonnes semences, tant qu'on n'améliore pas les compétences des agriculteurs face aux enjeux du changement climatique, face aux exigences des consommateurs, face aux exigences des industriels qui ont besoin de la matière première pour la transformation.
Au nom de la compétitivité, c'est difficile pour les petits producteurs de tenir les coûts, de faire face.
Voilà, donc il faut un accompagnement, pas seulement du pouvoir public, mais un accompagnement des autres organisations de la société civile, des partenaires techniques et financiers. Mais il y a aussi que les agriculteurs, les travaillent de façon isolée ne donnent plus de bons résultats. Les gens doivent être ensemble, en symbiose, en synergie.
On a évoqué la création des coopératives. La
création des coopératives, les agriculteurs doivent se mettre en coopérative pour échanger les expériences, partager les innovations et faire en sorte que les secteurs agricoles puissent. Mais il y a aussi un autre problème important. Vous avez des pertes importantes de la production qui se réalisent après la production. Donc tant que nous n'aurons pas, dans le cadre, que ce soit de la relance de l'agriculture, que ce soit de la compétitivité économique, que ce soit de la lutte contre la pauvreté, nous ne prendrons pas en compte l'aspect de la transformation-conservation.
Donc, il y a beaucoup de choses qui vont nous échapper et les pays risquent de tourner à rond. Mais dans le cadre de cette initiative, je dois rassurer à tous ceux qui nous écoutent maintenant que le programme présidentiel accéléré de lutte contre la pauvreté et l'inégalité ne sera pas un programme qui va tomber dans les oubliettes. Parce que nous avons condamné cette façon de faire, mais cette fois-ci, nous militerons pour que ce programme soit exécuté. Et déjà, les mois qui viennent, des projets concrets vont être réalisés dans le cadre de ce programme.
Je le considère comme votre dernier mot, monsieur le professeur Jean-Denis Minengou. Je rappelle que vous êtes vice-doyen chargé de la recherche à la faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa. Avec vous, on a eu à parler de l'apport du secteur agricole dans la lutte contre la pauvreté en RDC. Merci et à la prochaine occasion.
Merci beaucoup.